de Fleury Michon dans La France Bouge. À tout de suite.
À tout de suite, bonne émission.
Europe 1, il est 21h. Le point sur l'actualité avec Maëlle Essani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain. Il est accusé d'agression sexuelle sur deux femmes en 2021 sur le tournage du même film. L'acteur de 75 ans était en garde à vue aujourd'hui pendant une dizaine d'heures. Il conteste toujours les faits. Le comédien est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle dans un autre dossier depuis 2020. Une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort du jeune Mathis, 15 ans, à Châteauroux ce week-end. L'adolescent du même âge, soupçonné de l'avoir tué à l'arme blanche après une dispute, a été présenté à un juge cet après-midi. Il est d'origine afghane et avait été placé sous contrôle judiciaire dans une autre affaire la semaine dernière. La mère du mis en cause a également été déférée. Elle est accusée d'avoir violenté Mathis durant l'agression. Les représentants de la majorité sont reçus à Matignon ce soir. Les échanges portent autour des solutions pour endiguer la violence chez les plus jeunes après une série de drames impliquant des mineurs ces dernières semaines. Un peu plus tôt, deux cadres de la France Insoumise, Mathilde Panot et Manuel Bompard ont également été consultés. C'est une décision radicale. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, décide de suspendre les financements prévus pour Sciences Po Paris. Cela fait suite au blocage organisé par des manifestants pro-Gaza la semaine dernière et à un accord controversé signé entre les étudiants et la direction pour y mettre fin. Plus d'un million d'euros de crédits régionaux ne seront pas affectés à ce stade. Une autre université prestigieuse, la Sorbonne, était bloquée aujourd'hui également par des manifestants pro-Gaza. Les forces de l'ordre les ont évacués sans difficulté, mais les cours et les examens prévus cet après-midi ont été annulés. L'espoir d'une trêve à Gaza renaît une nouvelle fois. Une délégation du Hamas devait se rendre en Égypte aujourd'hui pour examiner une nouvelle proposition de cessez-le-feu. Selon la diplomatie britannique, 40 jours d'arrêt des combats assortis de la libération de milliers de prisonniers palestiniens sont mis sur la table. En échange, le mouvement terroriste s'engagerait à libérer des otages israéliens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est lui sous la menace d'une enquête de la Cour pénale internationale à cause d'éventuels crimes de guerre commis par Tsahal dans la bande de Gaza. Plusieurs médias évoquent un possible mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'État hébreu, une option à laquelle les États-Unis s'opposent. C'est un porte-parole de la Maison-Blanche qui le dit ce soir. Le retour à la normale sur l'autoroute A13, c'est pas pour tout de suite. Dans un communiqué, la préfecture des Hauts-de-Seine fait savoir que la portion de route fermée depuis le 19 avril dernier ne rouvrira pas avant le 11 mai prochain. Dans un premier temps, cette réouverture ne concernera que le sens Provence-Paris et seuls les véhicules légers seront autorisés à rouler. Et puis Rafael Nadal monte en puissance de jour en jour. La légende du tennis espagnol vient de se qualifier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid. Une belle performance après une longue absence et à moins d'un mois de Roland-Garros.
Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et place maintenant à La France Bouge avec Elisabeth Assayag.
Merci Maël, on vous retrouve à 22h pour le journal et puis surtout vous restez avec nous car dans un instant je reçois le patron de Fleury Michon dans La France Bouge. À tout de suite.
C'est donc désormais officiel, le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes, comme si c'était une guerre en fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Valorisons les entreprises responsables. Tout de suite, La France Bouge avec les trophées Generali PME Enterprise.
Europe 1, La France Bouge.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Europe 1. Bienvenue dans La France Bouge, au service de l'entrepreneuriat. La France Bouge, c'est une heure d'initiatives positives, des entrepreneurs, des dirigeants qui ont des envies, des idées et qui foncent. Ce soir, une entreprise familiale française, 5e génération, qui a plus de 120 ans. Et ce sont encore les descendants de Fleury Michon qui possède la société, l'ADN de cette entreprise, vous l'avez compris, c'est le jambon. Mais elle se diversifie au fur et à mesure des évolutions l'évolution de la société. Bonsoir Billy Sala.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France Bouge, directeur général de Fleury Michon. Bienvenue à vous autour de la table. Bonsoir et ravi de retrouver Benjamin Lévesque.
Bonsoir, vous n'avez pas oublié mon nom.
Mais non, vous avez vu, je le dis bien.
Oui, très bien.
Comment ça va la préparation? Parce que vous savez que Benjamin Lévesque est désormais le chef du projet des trophées Europe 1 de l'avenir. Comment ça se passe la préparation?
Ça se passe très bien, on a tous les nommés. Ça y est,
formidable.
Dans les 8 catégories, donc ça nous fait 32 nommés. Alors pour découvrir les lauréats, je vais vous donner rendez-vous, il reste quoi, un mois et demi, le 20 juin au soir pour la grande cérémonie.
La grande cérémonie, évidemment, une France Bouge spéciale Trophée Europe 1 de l'avenir, on vous en parlera évidemment. Mais tout ce soir avec nous, Benjamin Lévesque, on va tout de même prendre des nouvelles d'un membre de notre grande communauté. De qui s'agit-il?
Oui, c'est Anas Eridaoui. Il est venu dans l'émission en octobre 2022. Il a cofondé une start-up du nom de Fungit. C'est de la chimie, hein, je vous préviens. Pour faire simple, il récupère des déchets de l'industrie agroalimentaire pour les transformer en arômes naturels. Et je peux déjà vous dire que ça sent bon pour son entreprise.
Oh, formidable. On va voir ça dans le détail. Dans cette France Bouge, une autre start-up qui répond à cette question. Comment mesurer l'impact environnemental d'un aliment? Une start-up montpelliéraine a la solution. Elle s'appelle Food Pilote. Bonsoir Didier Livio.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France Bouge. Grâce à vous, paraît-il qu'on peut même connaître l'impact d'une baguette, par exemple?
Oui, on peut connaître l'impact d'une baguette, de la parcelle jusqu'au petit sachet en plastique.
En papier, évidemment. Allez-vous convaincre le patron et le coach de ce soir? Il a la tête dans les airs, il a fondé le groupe Aérophile, mais aussi des parcs d'attractions. Bonsoir Jérôme Giacomoni.
Bonsoir Elisabeth.
Ravi de vous retrouver, bienvenue dans la France Bouge. Est-ce que ça vous a inspiré, Food Pilote?
Ah oui, très grand professionnel.
C'est un grand professionnel, et moi j'ai trouvé ça très technique au début.
En fait c'est technique, mais c'est l'avenir, c'est le suivi.
Ah, c'est le suivi, vous allez nous dire pourquoi. Allez, la France Bouge sur Europe 1, c'est parti, aux manettes de l'émission Christophe Pirot. C'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble, là maintenant, jusqu'à 22h sur Europe 1.
La France Bouge. Il fait tourner la boîte.
Et c'est vous qui allez démarrer par faire tourner la boîte ce soir, Billy Sala. Vous êtes le directeur général de Fleury Michon. Nous sommes ravis d'être avec vous. Vous dirigez depuis 5 ans, c'est ça? Cette belle entreprise française.
C'est ça.
Et familiale. Alors, vous savez qu'il y a un rituel dans la France Bouge. On démarre par le pitch. Que l'entreprise ait 6 mois ou 300 ans, il y a un pitch pour essayer de la connaître encore mieux et de manière très succincte, hein, en une minute. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous êtes entraîné, Billy Sala?
Tout à fait prêt.
Top chrono, on vous écoute.
Comme vous l'avez dit, nous sommes une entreprise familiale, cinquième génération, 120 ans quand même, 120 ans dans la même famille, basée dans le bocage vendéen, dans une petite ville qui s'appelle Pouzauges. Alors, Fleury Michon, c'est d'abord des équipes de charcutiers et de cuisiniers qui ont l'obsession du produit depuis très longtemps, qui les fabriquent et qui les développe un petit peu au quotidien. Mais c'est aussi, on a compté récemment, c'est 150 métiers différents, Fleury Michon, avec des choses parfois très pointues comme le digital, la cybersécurité, la data science, etc., etc. Mais Fleury Michon, c'est d'abord des produits que tout le monde connaît, qui sont achetés et réachetés, qui sont très appréciés. On est présent dans 3 frigos sur 4. Alors, on est surtout connu pour être les rois du jambon, mais notre actualité, c'est effectivement le lancement des tranches VG, ce lancement des tranches VG qui constitue une étape importante pour notre entreprise.
Merci. Une minute pile. Merci pour votre pitch, Billy Sala, directeur général de Fleury Michon. Il y a plein de choses dans le pitch. D'abord, on va démarrer par le porc. Parce que j'ai compris, votre actualité, c'est les tranches végétales. Moi, j'ai été très étonnée que vous vous lanciez sur cette partie-là. On va en parler d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord, le porc. D'abord, Benjamin Lévesque, les Français sont-ils de gros consommateurs de porc?
Alors, un Français mange en moyenne 32 kilos de viande porcine chaque année. Alors, les trois quarts étant dégustés sous forme de produits de charcuterie, donc type rillettes, andouilles, saucissons ou encore boudin, et le reste sous forme de viande fraîche. 32 kilos, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Fleury Michon, Billy Sala, c'est une entreprise familiale de 120 ans. Vous l'avez dit dans le pitch, c'est une entreprise composée de charcutiers, de cuisiniers, des personnes qui fabriquent cette fameuse tranche de jambon que l'on retrouve dans la grande distribution.
Exactement. En fait, Monsieur Fleury et Monsieur Michon, qui se sont alliés en 1905 pour fonder l'entreprise, c'était deux beaux-frères. Ils étaient tous les deux charcutiers. Ils avaient la passion du bon. Ils ont commencé à construire ça. Et puis, les produits étant vendus, revendus, re-revendus, c'est encore aujourd'hui les héritiers de la famille, évidemment.
Comment ça va alors? Puisque vous dites que ça se vend bien. Vous êtes présent, vous l'avez dit dans le pitch, hein, dans trois de trois réfrigérateurs sur quatre en France.
Effectivement, on est l'une des marques les plus vendues en France et ça nous donne un sentiment de fierté, mais aussi évidemment de responsabilité. Alors, comment ça va? Alors, le marché, on va y revenir sur du porc, est en légère décroissance et donc ça nous invite un petit peu à rester vigilants. Ça fait plusieurs années qu'il est un petit peu en décroissance, mais du coup, avec l'équipe, on a décidé de sortir un petit peu par le haut de ce qui pourrait devenir problématique à terme par des efforts d'innovation sur la qualité des produits et aussi des vraies innovations comme les tranches végétales.
On va y venir, on va en parler, on garde le suspense pour ces tranches végétales. Ces tranches de porc, quand vous dites qu'il y a des innovations, ça veut dire quoi? Vous avez combien d'usines en France?
On a 8 sites principaux.
8 sites en Vendée, essentiellement.
7 en Vendée et 1 dans les Hauts-de-France à Cambrai.
Donc déjà ça, bravo, hein. 8 usines, tout est fabriqué en France. Comment on innove quand on fabrique du jambon?
Alors, sur le jambon lui-même, le sujet essentiel de ces dernières années a été de relancer certains de nos produits en développant tout ce qui est sans nitrite. Donc, en fait, c'est une attente croissante en fait, des consommateurs. Et donc, on a pris à peu près une quarantaine de nos références quand même qu'on a fait basculer en sans nitrite depuis ces dernières années.
Parce que nitrite est considéré comme un facteur cancérigène.
Voilà. Alors, nous, ça fait des années qu'on est mieux disant que la réglementation sur l'aspect des nitrites. Mais en fait, on a voulu aller un petit peu plus loin en profitant de notre savoir-faire. J'y reviendrai. En salle blanche, on a un chirurgien qui a visité nos sites il y a quelques années qui nous a dit « Ah bah si, dans mon hôpital, c'était aussi clean que chez Fleury Mouchon,
j'aurais
bien content. »
Ça promet,
en fait, tout ça, c'est extrêmement pro pour s'assurer de la conservation de tout ça. Et donc, on arrive petit à petit à basculer une partie de nos références en sans nitrite. On est devenu, depuis un an maintenant, le leader du segment sans nitrite en France.
Et vous avez raison de le préciser, Billy Salak, vous faites des innovations au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que vous êtes toujours là, après 120 années d'existence. On va revenir un peu dans les années 60. Ce qui fait que Fleury Michon a passé à chaque fois, traverse les étapes et traverse les habitudes de nos habitudes de consommation. Dans les années 60, c'est là où vous explosez vraiment dans les cuisines des Français, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative du jambon sous vide.
Exactement. Alors, ce n'était pas moi personnellement,
mais
effectivement,
Michon.
L'entreprise Fleury Michon a toujours eu la passion d'innover. Vraiment, toutes les générations qui se sont succédées avaient et ont toujours cette passion. Et en fait, le sujet, c'était le début des Trente Glorieuses, les années 60, le jambon jusqu'à présent était vendu uniquement dans les boucheries du coin. Et en fait, l'idée géniale, ça a été de dire qu'il faut que le jambon devienne un produit fond de frigo. En fait, c'est un produit avec des viandes saines, du muscle que vous mettez au fond de votre frigo de manière hyper pratique, sous le format hyper pratique de la tranche, que vous pouvez utiliser un peu quand vous voulez.
Parce que dans les années 60, ça se vendait qu'à la coupe.
Ça se vendait qu'à la coupe, oui. Exactement. Mmh. Et donc, l'introduction du jambon sous vide, en fait, a fait que le marché a explosé. Et c'est Fleury Michon qui a explosé en même temps à ce moment-là.
Donc, à ce moment-là, vous avez vraiment inventé le jambon sous film en libre service. Et grâce à vous, grâce à l'entreprise Fleury Michon, le jambon peut alors se conserver plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui n'était pas le cas avant.
Exactement. Et ça devient un produit fond de frigo que 80% aujourd'hui, 90% des foyers ont au fond de leur frigo.
C'est vrai que c'est un peu comme les pâtes. On a tous un paquet de jambon.
Un paquet au fond,
frigo,
voilà. Ouais. Ça fait partie des habitudes alimentaires. L'autre innovation majeure au sein de Fleury Michon, c'est pour ça que j'insiste sur ces innovations qui accompagnent nos habitudes de consommation, ça a été les tranches de volaille.
Exactement.
Là, vous commencez, à partir de quelle année vous vous dites on va pas faire que du jambon, on va quand même aller voir un peu ce qui se passe ailleurs?
Ça, c'était il y a 30 ans, c'est intéressant, les innovations majeures tous les 30 ans. En fait,
c'est des cycles de société, hein,
voilà,
tous les 30 ans.
C'est des cycles de société, et moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a toujours été fidèles, les équipes de Fleury Michon ont toujours été fidèles à leur ADN qui est toujours de donner des protéines de qualité, sous le format ultra pratique de la tranche notamment, et à un prix accessible. Donc la protéine de qualité rendue accessible. Et donc ça a été rendu plus accessible dans les années 60 en termes de sur les tranches de jambon. Et puis effectivement 30 ans plus tard, au début des années 90, Yves Gonnor, qui est un monsieur qui a 85 ans aujourd'hui et qui est plein d'énergie, de peps, a décidé, contre l'avis de tout le monde, de lancer les tranches de volaille.
Contre l'avis de tout le monde,
On lui a dit à l'époque, le jambon c'est la jambe du cochon, bison. Donc le jambon, c'est du porc, c'est pas de la volaille, etc.
Bison et filet mignon, c'est du porc.
Et lui, il s'est dit qu'on pouvait donner en fait le format ultra pratique et l'accessibilité de la tranche aussi
pour
grâce à la protéine de volaille. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est un grand succès.
Ça représente quoi aujourd'hui? Le porc reste votre principale activité?
Le porc reste la principale activité. La volaille suit de pas très loin. Le porc doit représenter 40% de l'activité, la volaille 30% quand même.
Willy Sala, vous êtes le directeur général de Fleury Michon, vous êtes dans la France Bouge ce soir sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Justement, je me tourne vers vous Benjamin Lévesque, on parle de Fleury Michon, on parle du porc, vous dites que le porc ça reste le principal, la grande part de votre activité. Est-ce qu'on élève assez de porc? Moi je m'intéresse aussi à cette matière première, finalement, Benjamin.
Alors France. Oui, on peut dire que la production est dite autosuffisante. En clair, on est capable de produire ce que l'on mange et on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'étranger. Alors on compte en termes d'Europe, on compte un peu moins de 150 millions de porcs en Europe. C'est la plus grande catégorie d'animaux devant les bovins. Et la plupart de nos cochons sont élevés en Espagne et en Allemagne. La France est troisième, juste derrière le Danemark.
Billy Sala, vous, chez Fleury Michon, vous allez les chercher ailleurs, les porcs, compléter l'offre ou
Nous,
vous avez
on favorise toujours, évidemment, comme on est vendéen avec nos voisins vendéens, l'origine locale. Alors, pour compléter, on n'achète pas les porcs directement. Nous, on achète les pièces. Et selon les arrivages, etc., on complète par des arrivages généralement en Espagne.
Jérôme Giacomini, vous êtes le coach de ce soir. Vous êtes un entrepreneur aguerri. Quel regard portez-vous sur ce qu'on vient d'entendre là sur Fleury Michon? Très belle entreprise française, oui. 120 ans d'existence.
Moi, ce qui me fascine, c'est la Vendée. Enfin, c'est un cluster de création d'entreprises et de puissance. La Vendée, c'est vraiment, à chaque fois que je vais dans des créations d'entreprises ou des réunions de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de Vendéens. Mmh. Il y a un esprit qui souffle de d'entreprises et qui se soutiennent.
Ça me fait penser aux Hauts-de-France un peu.
Oui, là, il y a quand même 7 entreprises sur 8, 7 usines sur 8 qui est encore en Vendée.
C'est très fort.
C'est fort. C'est-à-dire qu'il y a, la main-d'œuvre est là, les gens veulent travailler, c'est une très belle région. Et puis, c'est une ETI. On a besoin de TI en France, on en manque. Tout le monde sait qu'on manque de ces entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, qui font la richesse de notre pays et qui peuvent aller à l'export, qui peuvent avoir la puissance économique de s'attaquer à des marchés différents. Donc bravo, et 120 ans, c'est magnifique.
120 ans, c'est magnifique. Et c'est aussi, moi, ce qui me plaît, cette entreprise Fleury Michon, qui s'adapte au fur et à mesure de nos habitudes de consommation. En ce moment, on l'a vu, il y a de plus en plus de personnes qui se disent « moi, je vais arrêter un petit peu de manger de la viande », alors encore plus du porc. D'ailleurs, Benjamin, c'est ce qu'on appelle les flexitariens.
Oui, alors pour avoir leur nombre, bon, c'est du déclaratif bien sûr, on ne surveille pas les assiettes, mais il y a une enquête IFOP qui montre qu'un quart des Français, un peu plus de 10 millions, se disent flexitariens, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui mangent de tout, mais qui limitent effectivement de plus en plus la viande et qui vont les remplacer par des aliments riches en protéines, comme des lentilles par exemple, ou d'autres légumineuses. Et alors, c'est pas forcément des jeunes qui sont flexitariens, puisque la moitié des flexitariens ont plus de 50 ans, même si 50 ans c'est jeune.
Non, mais ce qui veut dire que ça touche tous les âges. Oui. Billy Sala, vous êtes le directeur général de Fleury Michon ce soir avec nous sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 22h. Cette notion de flexitarisme, cela aussi, vous l'avez mis dans votre stratégie, et c'est aussi pour cela que depuis quelques semaines, vous avez sorti des tranches végétales. Alors là, on est dans un virage complet quand on s'appelle Fleury Michon et qu'on sort du végétal dans les supermarchés, c'est qu'on se dit qu'il y a un tournant que vous êtes en train de prendre.
Alors, oui et non, parce que d'un côté, c'est un tournant, comme vous le dites. D'un autre côté, quand on est revenu un petit peu à notre mission fondamentale, qui est de donner aux consommateurs des protéines de qualité dans des formats ultra accessibles et à un prix accessible, en fait, on s'est dit que ce n'était pas si un tournant que ça, en quelque sorte. Vous voyez, on l'a fait avec la protéine de porc il y a 120 ans, puis 60 ans. On l'a fait avec la protéine de volaille il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouvelles attentes, il y a des nouvelles préoccupations. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer de généraliser un peu cette approche aux protéines végétales. Et donc, simplement, quand on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire fondamentalement? On sait faire des tranches, et les tranches, ça donne accès à ces protéines de manière ultra pratique. Et donc, c'est ça qu'on a décidé de faire il y a quelques années.
Donc, vous proposez quoi? C'est sorti début avril. Vous sortez ces tranches, pas de jambon, parce qu'on n'a pas le droit de dire jambon, donc ces tranches végétales à base de pois chiches, lentilles, haricots blancs, c'est
voilà,
ça?
Voilà, on a décidé de lancer trois références. L'une à base de pois chiches, l'autre à base de lentilles corail, et la troisième à base de haricots blancs. Et donc, c'est proposé, c'est des forme, c'est comme le jambon, c'est des tranches, ça ressemble à des tranches de jambon. Simplement, on a fait un choix très très fort qui est de ne pas essayer d'imiter la viande, mais d'imiter la fonctionnalité de jambon, du jambon. Pourquoi le jambon est si populaire en France? Parce que c'est un produit...
C'est pratique.
C'est pratique, c'est fond de frigo, c'est accessible. Vous pouvez le garder 15 jours chez vous. Vous pouvez l'utiliser chaud, froid, en pique-nique, etc.
Donc
etc.
toute l'idée, c'était de répliquer la fonction du jambon.
La fonction fondamentale du jambon et pas le jambon lui-même, de ne pas essayer d'imiter le goût en partant des légumineuses, et donc des trois légumineuses qui sont renommées pour leur apport en protéines végétales, qui sont effectivement les haricots blancs, les pois chiches et les lentilles corail.
Vous avez mis combien de temps pour mettre en place ces tranches végétales?
On a commencé le projet il y a 3 ans. Nos cuisiniers ont fait 300 essais. 300 essais. Au tout début, les gros challenges que les cuisiniers avaient, c'était que, en fait, quand vous broyez des légumineuses entières, parce que c'est ça qu'on fait, ça donne plutôt de la purée, en fait. Ça donne pas trop de... Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il fallait trouver des formules tout en restant naturelles, en fait, qui puissent donner la tenue de la tranche, puisque la clé du jambon, c'est la praticité de la tenue de tranche que vous pouvez rouler, plier, chaud, froide, en pique-nique. Ça a été ça le sujet passionnant sur lequel nous travaillons depuis 3 ans.
Billy Salah, vous savez, 5 ans que vous êtes directeur général de Fleury Michon. Je crois que c'est votre fille qui vous a un petit peu influencé aussi sur aller vers des tranches un peu végétales.
Exactement. Hein? Alors effectivement, on a regardé les chiffres, les flexitariens, tout ça. Mais la réalité aussi, c'est que quand je suis rentré chez Fleury Michon, ça a été une rencontre avec la famille actionnaire qui est absolument super. Mais j'ai dû négocier avec ma fille qui avait 16 ans à l'époque, qui en a 21 maintenant, parce qu'elle était végane. Donc elle a dit, papa, Fleury Michon, vraiment, etc.
Fleury Michon quand on est végane, ouais.
Et du coup, ça s'est très bien passé. Mais blague à part, j'ai au-delà des chiffres, des études, je vois moi-même en fait l'évolution vers le flexitarisme, etc. Et comment les consommateurs de demain recherchent une alimentation plus variée.
Ça démarre bien.
Ça démarre très bien. Alors, la distribution est montée très, très vite. Vous savez que quand on commence à vendre un produit, il faut d'abord qu'il soit partout. Donc là, on bat un petit peu, on est un petit peu meilleur que nos plans. Et puis, les rotations démarrent très, très bien aussi, partout où on est déjà présent.
Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge. Billy Salah, vous êtes le directeur général de Fleury Michon. On va rester sur Europe 1, dans la food, avec une start-up Montpellier-Rennes créée il y a 2 ans, lancée par 4 personnes. Elle permet de mesurer l'impact d'une baguette, par exemple, c'est ça? Didier Livio, vous êtes le cofondateur de Food Pilote. Comment faites-vous? Eh bien d'abord, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien, en musique avec Pierre Granier, Ce qu'on était, et les réponses juste après sur Europe 1.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai. Peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un
un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Pardonné.
Et c'était le gagnant de la Star Academy en 2023, Pierre Garnier, ce qu'on était. Excellente soirée sur Europe 1.
C'est le retour de La France Bouge avec les trophées Général IPME Enterprise.
Europe 1, La France Bouge, 21h, 22h,
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez La France Bouge jusqu'à 22h, l'émission des entrepreneurs, des belles entreprises françaises. Ce soir, j'ai la joie d'être avec Billy Salal, directeur général de Fleury Michon, entreprise française 120 ans d'existence, 8 usines en France, dont 7 en Vendée. Et parmi ces 8 usines, combien d'usines sont seulement dédiées à la fabrication du jambon?
Alors, il y en a 2 qui sont dédiées à la fabrication du jambon, plus une 3e, les tranches de volaille.
Les tranches de volaille, elles ont une usine pour elles toutes seules?
Voilà, elles ont une usine pour elles toutes seules, vu les volumes qui sont très bons.
Comment ça s'est passé, les négociations commerciales avec la grande distribution? Elles se sont achevées au mois de mars?
Alors, les négociations.
Parce que vous êtes vendu en grande distribution.
Oui, alors on est vendu en grande distribution. Les négociations se sont passées comme d'habitude.
Donc
il y a toujours un petit peu de théâtre.
Mais au total,
il y a toujours un petit peu de ça. Mais au total, les positions se sont bien rapprochées parce que fondamentalement, vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans la grande consommation. On sait qu'on a besoin les uns des autres. Et donc nos partenaires distributeurs, typiquement, quand on leur présente une innovation comme ça, font un super boulot de distribution
de
et
mise
de mise
en avant du produit.
Et nous, notre boulot, c'est d'innover et d'amener des innovations sur le marché. Donc ça se passe
vous,
bien.
Pour vous, ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas le cas de tous les distributeurs, mais vous, en tant que Fleury Michon, vous avez une belle place dans les rayons. Les prix ont beaucoup augmenté, parce que vous l'avez dit, hein, il y a.
Alors, depuis ces dernières années, il y a eu effectivement une inflation des intrants qu'on n'avait jamais vue depuis 30 à 40 ans. Donc, les prix ont augmenté. Là, la bonne nouvelle, c'est que le prix de nos intrants a un petit peu diminué depuis la fin de l'année dernière. Et donc, nous avons pu diminuer les prix à nos partenaires distributeurs.
De
manière générale, c'est répercuté. Après, on a plein de produits, il y a plein de distributeurs. Et évidemment, ils sont libres de répercuter
ou
de ne pas répercuter. Mais de manière générale, j'ai l'impression que toute la filière joue le jeu parce qu'on a besoin, devant les préoccupations de pouvoir d'achat, de toute façon, tout le monde
et
a besoin
jambon,
que les consommateurs soient au rendez-vous.
Les tranches de volaille, ça fait partie des entreprises.
C'est pour ça que je suis venu ce soir, d'ailleurs.
On pourra repartir avec. Ça fait partie des habitudes des consommateurs. Et là, vous nous l'avez annoncé ce soir sur Europe 1, Billy Salal, vous êtes le directeur général de Fleury Michon. Ces tranches végétales, parce que oui, se bien manger, c'est au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, le végétal, il y en a beaucoup. C'est un gros marché, Benjamin.
Oui, on peut dire que c'est devenu un vrai business. La nourriture végétale, a généré un peu moins de 6 milliards d'euros de recettes en Europe l'an dernier, c'est 22% de plus par rapport à 2020. Alors qu'il s'agisse du lait, du fromage, de la viande, on le voit, les Français végétalisent leur assiette. Ouais. La preuve, vous avez la vente de boissons végétaux, vous savez,
comme les laits d'avoine, etc.
Ça bondit 19% entre 2020 et 2021. Et les ventes de fromage, donc les fromages végétaux...
Ou alors on dit fromage, ça dépend, je sais pas.
Il y a différentes versions. Là, ça a explosé un plus 102% sur la même période.
Eh oui, parce que chacune et chacun d'entre nous cherche à se faire plaisir en se faisant du bien, c'est préoccupé par sa santé. C'est aussi ce qu'a constaté Antoine Fenech au micro Europe 1 de La France Bouge. Écoutez.
J'aime bien faire attention à ce que je mange, donc je vais souvent acheter des produits bio, notamment les fruits et les légumes. Concernant les protéines, j'essaye d'aller dans des crèmeries, dans des fromageries, à la boucherie pour la viande.
J'essaie de varier un peu mon alimentation, notamment au niveau des viandes. J'essaie de manger un peu moins de viande que ce que j'avais d'habitude avant. Et après, j'essaie de faire un effort sur les fruits et légumes.
Je fais quand même attention à ce que je mange. C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner, donc je pense que ça peut aider. Donc, je vais faire pas mal de plats maison, des lasagnes, des ratatouilles, des plats avec des aliments assez variés. Je mange pas mal de poissons aussi.
J'avoue que j'ai une alimentation qui consiste essentiellement en beaucoup de gras. Donc j'essaye d'équilibrer le tout avec des produits frais, que ce soit des légumes ou des fruits.
J'aime bien consommer léger, notamment le soir. Voilà, j'aime bien consommer du fenouil, des carottes et des haricots verts. Aussi beaucoup de produits, enfin des jus aussi à base de gingembre, curcuma, voilà.
Voilà. C'est quoi vos habitudes alimentaires, Jérôme Giacomoni? Vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1.
J'adore cuisiner et j'adore cuisiner les légumes. Donc j'ai énormément de plaisir d'être sur le marché, de choisir des légumes, toutes sortes de légumes et de les cuisiner. C'est un grand plaisir, un grand moment du week-end.
Et vous, Benjamin Lévesque?
Je suis ce qu'on appelle un viandard. Donc...
donc vous, une bonne côte de bœuf.
Oui, alors j'ai une période, je pense que pendant un an, j'ai été végétarien, mais depuis, je mange quand
vous
même de la viande assez régulièrement. Ouais.
Et vous, Billy Sala, vous êtes le directeur général de Fleury Michon ce soir sur Europe 1.
Je mange un peu de tout et évidemment d'abord du Fleury Michon. Non, je pense qu'il faut vraiment manger un peu de tout, c'est ce que je dis à mes enfants. Et d'abord évidemment du Fleury Michon.
Et vous Didier Ligio, on va s'intéresser maintenant à Food Pilote, votre entreprise. Vous, c'est quoi vos habitudes alimentaires?
Moi aussi je cuisine beaucoup, la viande, le poisson, les légumes et je dirais flexitarien.
Flexitarien, on va rester dans cet univers de la food, dans cet univers de l'alimentation avec Food Pilote qui mesure l'impact environnemental de chaque aliment et même plus récemment, l'impact carbone des professionnels des vins de Bourgogne.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Alors Didier, vous avez 66 ans, c'est ça?
C'est ça.
Et les questions environnementales, ça vous a toujours, toujours passionné. C'est toute votre carrière.
Oui, c'est toute ma carrière. Depuis, comme tous les enfants, j'étais intéressé par la nature, mais j'en ai fait un métier en créant une première association environnementale alors que j'avais 12 ans.
Ensuite, vous avez créé une asso à 12 ans, association environnementale. Voilà. Enfin, c'était quoi?
C'était le premier Panda Club. Le WWF avait créé des Panda Clubs pour enfants. J'avais créé le Panda Club de Lyon pour agir pour l'environnement. Et voilà, et j'ai continué depuis plus de 40 ans sur ces questions environnementales.
Dès l'âge de 22 ans, vous avez créé une entreprise d'ingénierie de développement durable. Une entreprise qui s'appelle Synergence, 80 salariés, qui est devenue l'une des principales boîtes de conseil en développement durable et en énergie. Vous étiez très précurseur sur toutes ces questions. Il n'y avait personne à l'époque.
Oui, dans les années 80, cette question, puisque j'ai créé cette entreprise en 81, dans les années 80, ça n'intéressait pas grand monde. Après, les normes environnementales sont arrivées dans les années 90 et ça a vraiment décollé dans les années 2000. Et nous voilà maintenant dans un sujet plus qu'au cœur de toutes les actualités.
Mais oui, parce que et ça a tellement cartonné, ça a tellement intéressé. En 2015, vous avez eu une belle proposition, puisque le cabinet Deloitte vous a fait une proposition de rachat. Vous avez vendu et comme vous étiez un expert dans cet univers-là, vous avez dirigé pendant 5 ans tout le développement de cette filière au sein même du cabinet. Mais cela ne vous a pas suffi, Didier Livio, puisque vous avez poursuivi. Comment vous est venue cette inspiration pour continuer, aller encore plus loin sur cette mesure de l'impact environnemental des aliments? Comment vous êtes allé fonder, vous avez dit je vais quand même fonder cette entreprise qui est Food Pilote?
Comme nous venons de le voir, après plus de 40 années passées dans l'intimité des entreprises à chercher à transformer les modèles économiques dans une perspective de développement durable, donc avec moins d'empreintes environnementales et de meilleures dynamiques sociales, tout en restant performante économiquement, j'ai pu mesurer à quel point il fallait outiller les entreprises pour ça, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que transformer le modèle économique d'une entreprise? C'est transformer ses pratiques professionnelles. Et transformer ses pratiques professionnelles, c'est aller les transformer dans l'intimité de chaque geste. Et pour aller chercher ce geste, il faut les connaître, il faut connaître leur impact, et il faut les piloter au quotidien pour savoir ce qui se fait dans une des 8 usines de Fleury Michon, ou ce qui se fait dans les compagnies de transport qui vont transporter les choses, ou chez les agriculteurs qui élèvent les porcs. Donc, effectivement, fort de ça, je me suis dit que face aux urgences climatiques et sociales qui sont les nôtres aujourd'hui, il fallait créer, enfin, un premier outil qui aide les entreprises à être pilotées sur les questions de développement durable en tant qu'entreprise et piloter tous leurs produits, notamment dans l'agroalimentaire.
Ainsi est né Food Pilote avec 3 autres personnes.
C'est ça.
Hein, c'est qui les 3 autres fondateurs? Quels profils ont-ils?
C'est des profils semblables aux miens, avec de l'expérience, plus jeune que moi, mais avec de l'expérience. Il y a Virginie Bécard qui dirigeait le plus gros cabinet de conseil en nutrition et en stratégie nutritionnelle qui s'appelle toujours Protéines, mais Virginie a quitté Protéines pour me rejoindre. Frédéric Vol qui était chez InVivo comme directeur du développement, qui est ingénieur agronome et qui continue d'être directeur du développement de Food Pilote, puisque nous avons par ailleurs...
Toujours cet univers de la nutrition et de l'alimentation.
Avec des liens forts avec InVivo, notamment, puisqu'on a des liens forts avec l'agriculture. Et Thierry Laval, qui est le secrétaire général de notre activité, qui lui vient plutôt du monde du digital et des médias.
Ainsi est Food Pilote. On va vous écouter pour comprendre concrètement ce que vous proposez aux entreprises. Est-ce que vous êtes prêts en une minute?
Allez,
on a déjà dit beaucoup. Là, on va écouter le condensé. C'est à vous. Food Pilote, c'est quoi? Vous avez une minute.
Food Pilote, c'est la première plateforme digitale au monde, on peut dire, capable dans l'agroalimentaire, pour l'agri et l'agro, de piloter sur des datas automatiquement téléchargées le plus possible. On n'y arrive jamais à 100%, mais on y arrive assez bien maintenant. De piloter le progrès vers des entreprises agroalimentaires, vers une alimentation saine et durable. Et ça, on va le faire de la parcelle ou du bâtiment d'élevage jusqu'à l'emballage, voire aux habitudes de consommation, puisque dans les pâtes fraîches, par exemple, la façon de cuire les pâtes pèse pour 20% d'un bilan carbone. Donc il faut aussi que l'industriel de l'agroalimentaire discute avec ses consommateurs pour aller chercher aussi une évolution du geste chez les consommateurs. Nous, on va piloter tout ça jusqu'aux consommateurs, et les bénéficiaires de Food Pilot vont être principalement les entreprises agroalimentaires dont on vient de parler, les consommateurs qui, grâce à nous, vont avoir une information fiable et sûre avec l'affichage environnemental que le gouvernement va lancer bientôt, en 2024, pour une mise en place en 2025. Et enfin, les agriculteurs qui, en apportant leurs data, vont prouver la capacité de transformer leurs pratiques agricoles ou d'élevage et vont, grâce à cela, bénéficier de primes au développement durable. Et on va aider à tout ça.
Donc, Didier, merci pour votre pitch. Merci de vous être prêté à l'exercice. Didier Livio, cofondateur de Food Pilot, ce soir sur Europe 1. Ça signifie que vous touchez tout cet écosystème, parce que vous avez parlé des agriculteurs, des entreprises, et puis le consommateur final aussi.
Oui, c'est tout le monde. Oui, c'est toute l'innovation qui est la nôtre, mais qui est due, je pense, à toutes ces années d'expérience et à cette connaissance intime des filières agricoles. C'est effectivement de partir du produit agroalimentaire final et de chercher son empreinte depuis la parcelle ou le bâtiment d'élevage. Pourquoi ? Pas que pour la beauté du geste, parce que dans tout produit alimentaire, pour vous donner une fourchette large, entre 60 et 90% de l'impact d'un produit alimentaire final, c'est les pratiques agricoles ou d'élevage. Dans une tranche de jambon, puisqu'on parle de Fleury Michon dans cette émission, dans une tranche de jambon, selon les processus, que ce soit du jambon cru ou du jambon cuit, etc., c'est 80 à 90% de l'impact carbone d'une tranche de jambon qui est dû à l'élevage du porc. Donc il faut bien aller chercher ce qui se passe.
Vous allez à la source.
Voilà, c'est ça.
Billy Sala, vous êtes le directeur général de Fleury Michon ce soir sur Europe 1. Je voyais écouter très attentivement Didier Livio pour Food Pilot. Est-ce que vous connaissiez Food Pilot avant ce soir?
Moi, je ne connaissais pas Food Pilot, mais je me suis rendu compte que ma directrice RSE connaissait très bien Food Pilot.
Donc,
comme quoi, le monde
est
relativement petit. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, nous, on suit ça de très très près. Et en fait, je vois bien l'intérêt d'une entreprise comme Food Pilot, parce que c'est énorme pour une société qui n'est pas très grosse déjà, comme Fleury Michon. Alors, plus vous êtes gros, plus c'est compliqué. Trouver les data partout, c'est juste un enfer, quoi.
Mais vous les trouvez où, vous, les data, Didier Livio?
En fait, les data, elles existent partout. C'est-à-dire que si on prend les agriculteurs, aujourd'hui, vous avez...
Ils ont des outils, déjà.
Ils ont des outils. Et dans ces outils, il y a des data. Chez Fleury Michon, il y a des outils, peut-être des grands outils du marché comme SAP. Voilà, il y a de grands outils dans lesquels il y a des data. Chez les transporteurs, il y a des data. Dans les satellites, il y a des data. Donc, l'idée, c'est de venir chercher les data partout.
Et comment vous y allez ?
Eh ben, on noue des partenariats, on fabrique des API, pour prendre le jargon, donc des connecteurs sur ces systèmes, et on va télécharger automatiquement ces data.
Donc, grâce à vous, l'industriel, donc par exemple Fleury Michon, va avoir des scores à atteindre.
Voilà. Alors, ce que va faire l'industriel, c'est que grâce à nous, il va pouvoir faire trois choses en un seul geste. La première chose qui est la plus importante, c'est grâce à ces data, il va piloter sa stratégie RSE et il va connaître l'ensemble de ses impacts environnementaux et sociaux pour son entreprise et pour ses produits. Et ensuite, avec ces mêmes data, comme l'industriel est soumis à un certain nombre de réglementations, la CSRD qui arrive, qui est la réglementation du reporting extra-financier européen, le devoir de vigilance, etc., il va pouvoir répondre à ses obligations réglementaires. Et d'un autre côté, il y a des labels environnementaux produits qui arrivent, ou des labels, des vieux labels existants, le label rouge, le label bio, etc., auxquels il va pouvoir répondre aussi. Donc ça unifie le geste de gestion des data à plusieurs fins. Voilà ce qu'on entend.
Mais moi, quand j'entends ça, déjà, on sait que les agriculteurs ont beaucoup de choses à faire, ils ont une grosse pression. Est-ce que le fait que l'industriel, je pense à vous, Fleury Michon, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ait un score à atteindre, donc quelque chose de très clinique, est-ce que ça ne va pas mettre plus de pression, plus de stress aux agriculteurs qui en ont déjà beaucoup ?
Non, ça ne met pas plus de pression, parce que la pression, elle existe déjà, puisque les industriels ont déjà la pression pour donner le change aux consommateurs ou au pouvoir public. Au contraire, on arrive, et ce que disait Billy tout à l'heure sur la gestion en filière du fait des négociations, etc., notre système vient aider à la gestion des filières et vient apporter un support aux primes aux agriculteurs. Et dans cette prime aux agriculteurs, j'ai un cas dans les pâtes fraîches dont je parlais tout à l'heure, il y a une prime sur le blé dur. Dans cette prime sur le blé dur, il y a 5 euros qui rémunèrent l'apport de data par les agriculteurs. Donc l'agriculteur se trouve rémunéré
pour sa participation.
Grâce à votre solution. Billy Sella, vous êtes le directeur général de Fleury Michon ce soir sur Europe 1.
Oui, effectivement, pour faire écho, je découvre un peu ce que dit Didier, mais c'est totalement vrai. En fait, nous, on est totalement promoteurs depuis très longtemps chez Fleury Michon de la création de filières. Les filières, c'est quoi? C'est qu'on fait des accords avec des éleveurs ou des agriculteurs pour des standards de qualité un peu plus élevés que le marché. Ensuite, on les met sur nos emballages pour convaincre les consommateurs que c'est un produit éthique. Donc, c'est pas de la pression négative, c'est de la pression positive, en fait, qui permet de fluidifier un petit peu l'information. Donc, on travaille déjà, en fait. On a la filière Label Rouge, on a la filière française des éleveurs engagés, etc. On
passe des informations chez nous. Qui répond déjà à ce cahier des charges, qui va diminuer. Et dans ce cahier des charges, il y a déjà la diminution le plus possible de l'impact carbone.
Typiquement, l'impact carbone, on travaille dessus depuis au moins 2012. On a réduit déjà de 30% nos impacts carbone. Mais on le mesure plutôt via des Excel, vous voyez.
Un peu à l'ancienne.
Et là, typiquement, les tranches VG, en fait, c'est aussi pour aller plus loin, puisque l'impact environnemental, comme vous disiez, 90% souvent de l'impact environnemental vient de la matière première. En fait, l'impact environnemental des légumineuses est bien inférieur à la viande de porc. Et du coup, ce sera mesuré, tout
donc
ça.
Donc, chez Food Pilot, vous faites aussi des recommandations aux producteurs, aux industriels et à tous les acteurs de la chaîne.
Oui, nous faisons deux types de recommandations. Des recommandations du fait de ce que nous constatons, mais aussi et surtout sur les actions qui ont l'impact principal. Si on prend une tranche de jambon, si vous prenez toutes les actions auxquelles il faudrait toucher pour atteindre 100% des impacts d'une tranche de jambon, ça se compte en centaines ou en milliers, puisque tous les acteurs sont concernés. Et en fait, le jambon est un formidable exemple, parce que quand on regarde les impacts réels de ces centaines ou milliers d'actions, en fait, il y en a quatre qui font 50% des émissions de gaz à effet de serre, une filière carbone. Donc, ce qu'on vient aussi illustrer, c'est dire à la filière charcutière, si vous vous concentrez sur ces quatre actions et pas sur 50 ou 2000, vous allez diviser par deux le bilan carbone d'une tranche de jambon en France. Et en divisant par deux, on va répondre à l'urgence climatique et on va pouvoir aller plus vite. Et ensuite, demain, on va pouvoir attaquer 10, 20, 30 actions de plus, mais ça permet de se concentrer sur les actions à plus fort impact.
Je me tourne vers le coach de ce soir, Jérôme Giacomoni.
Mesurer, c'est connaître. Donc c'est vrai que c'est essentiel. Nous, par exemple, au ballon Generali, on mesure la qualité de l'air. Donc on voit
c'est le ballon qui est dans les airs, hein, vous savez. Ben c'est derrière ce grand ballon, c'est Paris, Jérôme Giacomoni.
Voilà, le ballon qui est dans le parc André Citroën. Et donc nous, on mesure avec le CNRS les polluants. Et en connaissant l'évolution des polluants, et en connaissant la composition des polluants, on voit où il faut aller pour pouvoir baisser globalement la pollution de l'air. Et là, c'est le même principe. En travaillant mieux et en connaissant mieux la chaîne de valeur des différents éléments, et ben on peut savoir, comme vous le disiez Didier, où est-ce qu'on peut agir le mieux. Donc c'est bien sûr qu'il faut faire ça absolument, et ça évite tous les non-dits, toutes les hypothèses farfelues. Au moins on voit scientifiquement où est-ce qu'il faut travailler pour améliorer.
Vous êtes venu avec plein de conseils, hein, enfin des conseils, des suggestions. C'est ça, vous préférez, parce que je m'avais dit
Didier,
en antenne, c'est compliqué face à Didier de pouvoir prétendre donner des conseils.
40 ans d'expérience avec une entreprise vendue, réussie, après une grande cabinet de conseil, et puis de nouveau, où certains décident de partir à la retraite, vous décidez de recréer
une boîte.
C'est
extraordinaire, donc, c'est ça la France bouge. Hein.
Bah oui, exactement, donc c'est la preuve qu'on peut créer des boîtes n'importe quand. Moi, je l'ai créé à 25 ans, vous l'avez créé à 22 ans.
Première boîte à 22 ans, et pour Didier.
Voilà. Et qu'on a toujours envie de créer des boîtes, même beaucoup plus tard. Et donc, c'est très difficile de donner des conseils à Didier. Ce que je pourrais dire quand même, c'est qu'on a un écosystème en France extraordinaire pour le financement. Mmh. Et que Didier a déjà pu profiter sur son idée de retrouver des fonds pour repartir. Et que ça, c'est fantastique.
C'est fantastique. Vous avez levé combien, Didier ?
4,5 millions en décembre 2023.
Allez, on va poursuivre aussi sur tout ça dans un instant. Mais tout d'abord, on va faire une petite pause en musique. On va écouter Billy Joel, My Life sur Europe 1. My Life sur Europe 1. Puis à noter vos rendez-vous Europe 1 comme historiquement vôtre. C'est du lundi au vendredi de 15h à 16h. C'est présenté par Stéphane Bern. Et demain, mardi, Stéphane Bern nous parlera de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assaya.
Et vous êtes bien sur Europe 1. Et puis évidemment qu'elle bouge, cette France. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1. Nous parlons de notre alimentation. Nous parlons de l'impact carbone des produits alimentaires. Nous sommes avec le directeur général de Fleury Michon, Billy Sala. Fleury Michon, entreprise familiale, 5 générations. Billy Sala, on est le directeur général depuis 5 ans. Vous ne faites pas partie de la famille, Billy?
Non.
Non. Mais non, c'est pas
non,
grave.
Mais effectivement, c'est intéressant parce que j'étais même pas dans l'alimentaire avant et ça a été une rencontre avec les valeurs de cette famille actionnaire.
Quelles sont les valeurs depuis... de cette famille actionnaire?
Alors, elles sont pas directement, c'est la pérennité, c'est l'humanisme. La manière dont je les caractériserais, c'est l'humanisme. Ce que je dis souvent en interne, c'est que Fleury Michon fait de la RSE depuis 1934, bien avant qu'on ait inventé le concept RSE. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Quand j'ai creusé un petit peu pour connaître l'histoire de l'entreprise, la RSE à l'époque, c'était pas du tout ce dont on parle actuellement.
C'était
l'exode rural, en fait. Il fallait garder les emplois dans les campagnes.
C'est très actuel.
Et c'est pour ça que les sites de Fleury Michon sont beaucoup, beaucoup dans les campagnes.
Dans les
petites villes.
Je rappelle, 8 usines, dont 7 en Vendée. Vous avez raison de le dire, Billy Sala, vous faites de la RSE depuis 1934. Puis quand on regarde l'aspect inclusif de Fleury Michon, là aussi, vous avez des scores tout à fait exceptionnels. Je parle de scores parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut, par exemple, si je prends les personnes en situation de handicap, chaque entreprise devrait en avoir 6%, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors là aussi, et je le dis très modestement parce que j'y suis absolument pour rien, sauf que j'ai décidé évidemment de perpétuer cela. Quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'on avait 12 à 13% de personnes en situation de handicap dans nos effectifs et que c'était un choix...
Sur 3500 salariés.
Un choix réel. De l'entreprise depuis très très longtemps. Effectivement, comme vous dites, il y a une loi en France qui dit qu'il faut minimum 6% de personnes en situation de handicap. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer des amendes, en quelque sorte, pour ne pas se conformer. Et bien, chez Fleury Michon, il y a toute une culture, il y a toute une volonté, en fait, un peu à toutes les strates de l'entreprise d'encourager cette inclusion. Ce qui fait que, alors c'est pas des scores en fait, mais on le mesure et on en est très fiers.
Et ces personnes sont dans les usines en Vendée?
Elles sont un petit peu partout, sur les sites, aussi dans les bureaux, c'est très réparti justement.
Et comment vous conservez vos talents? Vous disiez, nous on fait de la RSE depuis le début, parce que surtout il faut conserver le maximum de talents, notamment dans les campagnes. Est-ce que vous avez mis au point une école de formation? Est-ce que vous fidélisez vos salariés? Je rappelle qu'il y a 3500 salariés au sein de Fleury-Michon.
Alors, les gens restent. On est connu en Vendée, vous parliez de la Vendée tout à l'heure, pour être une belle boîte, une bonne boîte. Donc en fait, comme toujours, un petit peu des petits challenges pour recruter des gens, mais on en a beaucoup moins que d'autres sociétés, parce qu'on est réputé, et à juste titre, je pense, pour être une belle boîte. Alors, c'est quoi au quotidien? C'est un environnement à la fois challenging, mais plutôt sympa. Il n'y a pas trop de politique. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, parce que dans toute organisation de cette taille, il peut y en avoir un petit peu, mais voilà. Et surtout, c'est des opportunités de développement. C'est-à-dire que nous, on a lancé un petit peu notre marque employeur, là, récemment. On dit, venez grandir et faire grandir Fleury-Michon. Moi, je pense que les gens ont besoin d'avoir un impact. La fierté qu'on peut tous avoir dans notre vie professionnelle, c'est d'avoir un impact favorable sur notre environnement. Et donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de se développer, de les développer pour qu'ils puissent avoir un impact et être fiers de ce qu'ils font chez Fleury-Michon. Ils le comprennent souvent et du coup, les gens restent.
Les gens restent. Chez vous, chez Foot Pilote, Didier Livio, 25 salariés aujourd'hui?
Oui.
Environ. J'imagine qu'ils sont fiers aussi de travailler dans cette belle entreprise qui mesure, je rappelle, l'impact environnemental de nos aliments. Et vous êtes allé plus récemment vers les vins de Bourgogne aussi pour mesurer l'impact environnemental du vin.
Oui, puisque notre plateforme est utilisable dans tout le monde de l'agroalimentaire. Le vin en fait partie, c'est finalement une matière première végétale. Nous avons travaillé de façon expérimentale d'abord et maintenant de façon plus industrielle, puisque le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, avec ADELF, qui est la branche de Citeo, qui s'occupe du recyclage de l'ensemble des emballages dans la filière viticole, nous avons fait un petit consortium pour inventer Wine Pilot, qui est la branche vin de Foot Pilot, et qui est diffusée maintenant depuis début avril aux 3800 vignerons de Bourgogne. Il y a aussi les vignerons du Sud-Ouest.
Là aussi, ça veut dire qu'il y a on peut diminuer l'impact à travers le vin, en changeant quoi, exemple?
Si c'est toujours cette concentration sur les impacts majoritaires. Hein, si par exemple le soja déforestant dans le porc fait 25% des impacts, dans le vin c'est 40% la bouteille. Donc en fait, il faut alléger la bouteille. Il faut travailler différemment sur les bouteilles.
C'est beaucoup plus clair, bien sûr.
Et il faut travailler sur les pratiques agronomiques, mais c'est principalement la bouteille et les pratiques agronomiques.
Jérôme Giacomini, vous êtes le coach de ce soir. Quel carnet d'adresses pourriez-vous ouvrir à Didier Livio?
Je pense que là, Didier souhaite faire sa seconde levée de fonds.
Mmh. Vous avez fait vous-même 7 levées de fonds, donc vous y connaissez un petit peu.
En 30 ans. En fait, si vous voulez, les fonds veulent rester plus ou moins longtemps, mais il y a beaucoup de fonds qui restent que quelques années. Et en fait, c'est vraiment un partenaire qui va vous aider à développer votre entreprise. Et vous, en échange, vous lui créez un peu de valeur. Et c'est un écosystème en France qui est vraiment excellent. Bien sûr, tout le monde connaît BPI. BPI qui est le socle de cet écosystème. Mais il y a plein d'entreprises qui se sont développées grâce à l'époque, ça date de 97. C'était un cadeau fiscal qui était fait quand vous investissiez dans les PME. Et du coup, il y a eu un intermédiaire qui a été créé pour pouvoir prendre cet argent et le donner de façon professionnelle à des entreprises. Et depuis, ça nous a permis de passer pas mal de crises, notamment celle de l'an 2000, notamment celle de 2008, parce que les entreprises de fonds sont plus solides, elles sont moins agressives et elles sont plus dans le long terme et dans une longue vision. Donc Didier, j'ai fait le go et mio des fonds et ils ont tous 5 étoiles, vous avez de la chance.
Donc vous pouvez peut-être échanger là-dessus. La France Bouge, c'est aussi une grande famille comme la grande famille Europe 1. Donc tiens, c'est le moment de prendre des nouvelles des membres de la communauté de la France Bouge.
La France Bouge, que sont-ils devenus ?
Benjamin, vous avez fouillé dans les archives d'Europe 1 et là, vous avez trouvé Funguit.
Alors, Funguit, c'est une start-up qui récupère en fait les déchets de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire tout ce qui aurait dû être jeté à la poubelle. Donc, par exemple, vous avez la membrane qui enveloppe les graines de blé, et avec ces chutes de céréales, eh bien, ils vont les utiliser pour leur donner une seconde vie. Donc, en fait, ils vont les faire fermenter avec l'aide de petits champignons, tout petits comme des levures, et une fois fermentés, eh bien, ça donne des arômes naturels, donc ce qui donne le goût, l'odeur des aliments, et donc on va pouvoir les utiliser pour des produits végétaux.
lentilles, des steaks végétales, par
on
exemple.
On reste dans cet univers du végétal.
Exactement. Donc, c'est pour remplacer, en fait, les arômes synthétiques, les arômes chimiques, ultra transformés, pas forcément bons pour la santé. Et à l'époque, ils nous avaient présenté une farine végétale avec un goût de viande.
C'était en 2022. Bonsoir, Anas Eridaoui.
Bonsoir, Elisabeth.
Vous
bonsoir,
allez bien
sur le plateau. Ça va très, très bien.
Bon, on est ravis de vous entendre, puisqu'effectivement, quand vous étiez venu en octobre 2022, c'était pour nous présenter cette fameuse farine hein, dont parlait Benjamin Lévesque. Qu'avez-vous changé dans votre entreprise depuis votre passage il y a 2 ans?
Ouais, bah écoutez, on sait que dans une start-up, en 2 ans, il se passe beaucoup de choses et on peut dire même que c'est plusieurs vies.
C'est vertigineux.
À l'époque, exactement, en 2022, on était, pour rappeler, on était 3.
Ouais, vous étiez 3.
Ouais, on était 3, 2 associés, une personne qui était dans l'équipe. On avait des premiers essais, on pourrait plutôt nous considérer comme un projet entrepreneurial. Et là, en 2 ans, bah, on est passé à 9 personnes. On est 3 au niveau associé. On a
vous avez créé
un premier
des
ingrédients. Exactement. On a un premier et puis on a surtout un premier produit qui est testé pour tout ce qui a été donné en introduction en conditions réelles chez des industriels pour prouver en fait ce qu'on expliquait il y a 2 ans et de montrer la valeur qu'on apportait aux alternatives à la viande.
Donc c'est grâce à cette fermentation qu'on arrive naturellement à avoir un goût de viande sans que l'on ait besoin d'ajouter les arômes chimiques dans des plats végétariens pour avoir ce fameux goût de viande. Vous avez donc fait valider vos recettes avec des industriels et là vous êtes aussi en train de lever des fonds. On parlait de lever de fonds avec Jérôme Giacomoni. Vous aussi vous êtes en plein dedans.
Ouais, bah c'est justement pour le vrai sujet des startups comme nous qui sont des startups deep tech industrielles où forcément on a besoin de fonds avant d'atteindre une rentabilité et donc on a eu un premier soutien en 2 ans avec la BPI que j'ai entendu tout à l'heure citer et certains investisseurs. On a pu récolter plus de 500 000 euros qui nous a permis d'avoir justement ce premier produit et de structurer une première équipe. Et là, nous entrons dans une seconde levée de fonds pour la fin de l'été pour lever à peu près 2,5 millions d'euros qui vont nous permettre d'avoir un outil semi-industriel début 2025 et surtout d'accélérer sur la partie commerciale de notre premier ingrédient.
Et quand vous dites accélérer sur la partie commerciale, ça veut dire que vous, vos clients, ce sera qui ce seront qui?
Nous on est un ingrédientiste, donc ce qui était dit justement en introduction, c'est que on a développé un procédé innovant de fermentation qui nous permet d'avoir des arômes naturels et performants qui sont intégrés dans des recettes d'alternatives à la viande.
Ça pourrait être les tranches végétales de Fleury Michon, par exemple.
Ça pourrait. Alors,
non, mais c'est vrai, oui. je mets les pieds dans le plat mais exprès, mais c'est ça, non?
Oui, oui, on utilise des arômes naturels. On s'interdit, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, tous les arômes artificiels.
Donc, il y a peut-être des choses à faire aussi.
Exactement. Hein, il y a beaucoup d'industriels qui cherchent à gommer certains ingrédients. Et justement, l'innovation de Fleury Michon, et je pense que la conclusion est le fruit de ce travail. Qui va dans ce sens-là. Ouais.
Et vous êtes situé où ?
On est basé en Bourgogne, c'est pour ça que j'ai envoyé ce pilote à côté également. On est basé en Bourgogne à Dijon. On a également une partie en R&D. On est beaucoup dans le bassin à Saclay, entre AgroParisTech et Génopôle, donc très accompagné sur le volet scientifique de nos innovations.
Didier Livio, vous les connaissez ?
Oui, oui. En fait, on a 3 équipes à Montpellier, à Paris, à Dijon, et à Dijon, nous sommes dans le même bâtiment.
Ah ben bah voilà, vous êtes accompagné, vous êtes au même endroit. Voilà, c'était une émission, une France Bouge, pas parisienne.
On se retrouve tous sur Europe 1,
ouais,
c'est pour ça.
On se retrouve tous sur Europe 1, mais surtout, vous n'êtes pas parisien. Ça fait du bien de voir qu'il y a ces écosystèmes qui vivent sans Paris, sans être obligatoirement à Paris. Fleury Michon en Vendée, dans les Hauts-de-France, Food Pilot à Montpellier ou Fungit en Dijon. Et Aérophile, le groupe Aérophile, Jérôme ?
Super parisien.
Bon, il en faut, heureusement. C'est la fin de votre France Bouge. Merci à Anas Eridaoui, cofondateur de Fungit.
Merci,
vous étiez ce soir sur Europe 1. Merci à Jérôme Giacomoni. Merci d'être venu en tant que coach ce soir, cofondateur du groupe Aérophile.
Merci, Elisabeth.
Merci, Didier Livio, cofondateur de Food Pilot. Billy Salah, vous êtes le directeur général de Fleury Michon. Merci d'être venu ce soir dans La France Bouge et longue vie aux tranches végétales.
Merci, Elisabeth.
Pour Fleury Michon. Benjamin Lévesque, je vous retrouve de toute façon pour les trophées européens de l'avenir.
J'ai encore un peu de travail et je reviens dès qu'il y a de l'alimentation.
Et vous revenez quand vous voulez évidemment. Demain, rendez-vous à Bayonne. La France bouge, c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Sixième étape, nous serons à Anglet. On va parler économie du sport à quelques semaines des Jeux d'été. Ce sera donc demain sur Europe 1 à 21h. Et puis là, juste après le journal de 22h, vous avez la libre antenne présentée ce soir par Olivier Delacroix. Moment d'échange où la parole est libre. Vous pouvez déjà laisser vos témoignages au 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.
C'était La France bouge avec General IPM Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables. Candidatez sur generali.fr/PME durable. Generali, assurez vos vies.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine, hors numéro spécial.